Mardi Politique, en partenariat avec Libération et France 24. Florent Guignard.
C'est la seconde partie de Mardi Politique avec Harlem Désir, le secrétaire d'État aux Affaires Européennes, pour vous interroger, toujours dans ce studio, Rosine Fèvre de France 24 et Rémi Daudet de Libération. Alors avant d'en revenir à la politique française, quelques mots, Harlem Désir, sur la situation internationale en Syrie. Des raids de la coalition internationale autour de Kobané pour faire reculer l'organisation de l'État islamique. Et cet appel ce matin de François Hollande à la Turquie.
Là, en ce moment, il y a un martyr. C'est cette ville de Konabe qui peut à tout moment tomber dans les mains des terroristes et avoir des conséquences très graves pour les populations civiles. Et la Turquie doit absolument ouvrir sa frontière et à travers la Turquie ou à travers d'autres voies, nous devons apporter tout le soutien à l'opposition syrienne. En l'occurrence, ce sont des Kurdes, mais ce sont des Kurdes syriens.
Harlem Désir, la Turquie porte une lourde responsabilité dans ce qui se passe en ce moment à Kobané.
Aujourd'hui, ce qui se passe à Kobané, c'est d'abord le fait des agissements terribles et barbares du groupe Daesh. Et la responsabilité de l'ensemble de la communauté internationale, les pays qui sont dans la coalition, qui interviennent en Irak, comme les pays voisins, et notamment la Turquie, c'est effectivement de venir en aide aux populations kurdes qui sont victimes de cette terreur imposée par le groupe Daesh et qui aujourd'hui essaye, pour ce qui est des Kurdes de Syrie et des Kurdes turcs, de résister. Et pour cela, il faut effectivement que la frontière leur soit ouverte à eux, que des équipements leur soient fournis. C'est pourquoi, vous le savez, la France a décidé depuis déjà un certain temps d'aider à la fois l'opposition syrienne, mais aussi les Peshmerga kurdes irakiens. Et la France appuie évidemment par des interventions aériennes la lutte contre le groupe État islamique.
Mais on dit que les Turcs empêchent la livraison d'aide ou d'armes aux combattants kurdes parce qu'ils sont kurdes.
C'est pourquoi il y a cet appel qui a été lancé par le président de la République et qui a été lancé par les grands responsables internationaux, que tout soit fait pour aider les Kurdes qui aujourd'hui sont martyrs dans la ville de Kobané et que donc il y ait peut-être demain une zone tampon. Le président de la République, vous le savez, a eu un contact avec le président turc Erdogan pour dire que nous étions prêts à soutenir l'idée qu'il y ait une zone protégée internationale, mais qu'il fallait évidemment que la Turquie soit aussi aux côtés de la coalition internationale dans la lutte contre l'État islamique d'une façon très résolue.
Une question de Rémi Daudet de Libération.
Alors oui, d'après le ministère de l'Intérieur, on a à peu près 1000 Français qui sont partis faire le djihad en Syrie, ou dans cette zone-là. On lit beaucoup de récits de ces Français qui sont revenus. Qu'est-ce que ça vous évoque et qu'est-ce que ça dit, selon vous, la France d'aujourd'hui?
Bon, d'abord, ce groupe, en Irak, mais aussi en Syrie, a décidé effectivement d'utiliser la propagande par Internet pour essayer de recruter des combattants venant du monde entier, et notamment d'Europe et de France. Et le ministère de l'Intérieur, vous l'avez rappelé, a recensé environ 950 Français qui ont été en contact ou qui ont tenté de se rendre en Syrie. Certains, plus de 500 en Syrie ou en Irak, se sont rendus sur place. 36 Français sont morts aujourd'hui dans les combats sur place. Et il y a le risque qu'en revenant, comme ça a été le cas pour Mohamed Nemouche, qui a été l'auteur de la tuerie au musée juif de Bruxelles, ils organisent des actes terroristes. Donc nous avons décidé d'abord de renforcer, depuis déjà plusieurs mois, puisque le ministre de l'Intérieur avait préparé ces projets avant l'été, ils ont été maintenant présentés devant le Parlement, les éléments de coopération internationale, mais aussi la possibilité, vous le savez, d'interdire la sortie du territoire quand il y a des preuves qui sont établies qu'une personne essaye de se rendre en Syrie ou en Irak pour rejoindre ces groupes terroristes. Ça peut aller jusqu'à la confiscation du passeport, de la carte nationale d'identité, l'inscription au fichier des personnes recherchées, dans le système informatique Schengen. Il y a également la possibilité d'incrimination d'une personne pour entreprise terroriste. Avant, c'était uniquement lié à une association de malfaiteurs à visée terroriste. Aujourd'hui, ça peut être le fait qu'une personne essaye de rejoindre ces groupes ou tente de revenir après les avoir rejoints pour éventuellement commettre des actes. Et donc, on a renforcé l'arsenal législatif. Mais il y a aussi une lutte à mener contre la propagande elle-même. Et c'est vrai que ça nous amène à nous interroger sur ce qui fait que des jeunes, il semble que ce soit quand même essentiellement des jeunes, même si c'est pas uniquement des jeunes, mais en particulier des jeunes, et là c'est particulièrement dramatique, se sentent attirés par cette propagande sur Internet, par les actes même de barbarie qui sont diffusés, les images de décapitation. Et donc, il y a aussi, vous le savez, un travail que nous faisons par exemple avec les Britanniques sur le qu'on appelle le contre-narratif, c'est-à-dire le contre-récit, pour essayer de montrer, d'abord lutter contre la diffusion de cette propagande par Internet, avec y compris là aussi des mesures de justice qui peuvent permettre d'empêcher la diffusion d'un certain nombre de ces images, mais aussi faire un travail en direction de ces jeunes pour leur dire que ce groupe, en particulier ce groupe-là, État islamique, ne représente ni l'islam et ses valeurs, ni en quoi que ce soit quelque chose à quoi un être humain puisse s'identifier, et que c'est par ailleurs extrêmement dangereux pour tous ceux qui essaieraient de le rejoindre que de participer à ces activités.
Harlem Désir est l'invité de Mardi Politique sur RFI avec France 24 et Libération. Alors, retour à la politique française, la droite ne réclame plus la démission de François Hollande. En ce moment, c'est à gauche que les voix les plus virulentes se font entendre contre le président. C'est le cas, par exemple, de Delphine Batho, l'ancienne ministre de l'écologie. Elle avait été débarquée l'an dernier du gouvernement. Elle l'a dit sur Europe 1, François Hollande ne peut pas être candidat en 2017.
Je suis très respectueuse des personnes, mais c'est vrai que je tire un bilan implacable d'une génération qui paraît aujourd'hui être prisonnière d'une vision gestionnaire et qui ne porte plus l'aspiration à changer la société. Dans la Ve République, presque toujours, les présidents sortants ont été candidats à leur réélection. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas en situation d'emmener la gauche à la victoire lors des prochaines échéances. Oui.
La socialiste Delphine Batho, elle sera d'ailleurs l'invitée de RFI demain matin, 7h50, heure de Paris. Alors, qu'est-ce que vous lui dites à Delphine Batho? Vous la connaissez bien en plus, parce qu'elle est passée par SOS Racisme. Tu craches dans la soupe?
Non, mais moi je vois le président de la République, il est totalement dédié et déterminé à son mandat, qui est celui qui ont confié les Français, c'est-à-dire redresser le pays dans la crise. Quand François Hollande est arrivé en 2012, je l'ai rappelé tout à l'heure, la dette avait doublé pendant les 5 années précédentes, la France avait reculé en matière de commerce extérieur. On pourrait mentionner d'autres domaines aussi, l'éducation, nous avons reculé dans les classements PISA. Et en même temps, la France, c'est un pays, de le voir avec les deux prix Nobel.
Mais je vais répondre. Ça vous interpelle pas?
Mais nous sommes dans l'action. La France, c'est aussi un pays qui est la deuxième économie de l'Europe. C'est un pays qui a parmi les grandes entreprises les plus performantes du monde. C'est dans les 500 premières entreprises la France qui a le plus d'entreprises en Europe.
De prix Nobel, ces jours-ci.
Voilà, c'est une culture scientifique, c'est des jeunes très brillants, c'est un prix Nobel d'économie, c'est un prix Nobel de littérature, c'est un rayonnement. Donc, c'est un pays qui a les atouts pour s'en sortir. Et tout ce à quoi se consacre le président de la République, c'est à proposer aux Français voies d'un redressement.
Ce que vous voulez dire, c'est son destin importe peu, finalement? Son avenir politique en 2017, c'est pas la question?
Mais moi, je pense que le président de la République sera candidat en 2017, mais c'est à lui qu'il appartient évidemment prendre cette décision.
Même si le chômage n'a pas baissé.
Et d'en décider. Mais parce que ce qui compte, c'est l'action que l'on mène, ce sont les réformes que l'on met en place et qui permettent au pays de repartir de l'avant. Et quand vous regardez ce qui a été fait sur le plan économique, ce qui est fait sur le plan, je l'ai dit tout à l'heure, de l'organisation de notre territoire, ce qui est fait sur le plan de l'éducation, ce qui est fait pour réorienter l'Europe dans une nouvelle direction, c'est une présidence qui aura profondément transformé le pays.
Rosine Fèvre.
Mais quand on entend Delphine Batho ou quand on entend les frondeurs, est-ce qu'on, Est-ce qu'on se dit pas quand même qu'il y a quand même des socialistes qui ont raté une marche, voire plusieurs. Ils veulent encore, ils rêvent de gouvernants qui réenchantent la politique. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien à réenchanter. Il n'y a plus rien à redistribuer. Aujourd'hui, il faut gérer, il faut effectivement contrer cette dette, etc. Est-ce que vous avez le sentiment que quand même, il y a certains socialistes dans votre camp qui n'a pas pris la mesure et qui vit encore dans les années Mitterrand ou dans les années Jospin?
Mais
qui n'est pas dans le réalisme d'aujourd'hui.
Nous sommes dans un temps très difficile pour la France, parce qu'elle est mise à l'épreuve par la mondialisation, depuis déjà longtemps. Et en même temps, la politique qui est menée, c'est celle qui nous permet de continuer à préparer l'avenir. Quand, par exemple...
Mais justement, vous ou les socialistes comme Delphine Bateau? Mais répondez.
Je veux leur répondre, à eux. Non, parce que moi, je compare avec ce qui se fait dans d'autres pays d'Europe. Vous nous disiez, dans d'autres pays, regardez, ça va mieux. Enfin, nous n'avons jamais sacrifié le budget de l'éducation, c'est même l'inverse. Aujourd'hui, enfin, nous offrons une formation aux enseignants et nous recréons des postes, parce que ça, c'est préparer l'avenir et que nous ne voulons pas sacrifier une génération. Nous continuons à investir dans des grands projets d'infrastructures et d'avenir.
Par exemple,
je rencontrais aujourd'hui le futur coordinateur du projet de canal Seine-Nord, qui est un projet que nous défendons au plan européen. Oui, parce que c'est du développement durable, parce que c'est structurant pour les régions.
C'était pas ma question, Harlem Désir.
Nous venons d'adopter aujourd'hui la loi de transition énergétique, qui veut dire que nous allons investir massivement dans l'efficacité énergétique, dans les renouvelables, et en même temps continuer à rester leader en matière de nucléaire, ce qui est une énergie d'avenir si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Il est très bon.
Donc il faut peut-être qu'on sache aussi voir, malgré la situation difficile dans laquelle est notre pays, qui implique des réformes, des efforts,
mais justement,
etc.
Est-ce que c'est pas des gens comme Delphine Bateau qui bloquent le pays aussi? Il y a 30 ans de réformes qui n'ont pas été faites parce qu'on a refilé, les politiques n'ont cessé de refiler la patate chaude à leurs successeurs. On dit que les Français ont du mal à se réformer eux-mêmes, mais est-ce que, par exemple, aujourd'hui, c'est pas des gens comme Delphine Bateau et les frondeurs qui bloquent quand même la France et les réformes?
Mais surtout, ce que je voudrais leur dire, parce que je comprends ce que vous voulez dire, c'est qu'effectivement, je crois qu'il ne faut pas opposer le fait de faire des réformes, de faire un certain nombre d'efforts, je l'ai dit, le mot il doit être là parce que c'est une réalité, pour dépenser moins dans les collectivités locales, dans le fonctionnement de notre administration. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons plus rien faire pour l'avenir, au contraire, ça veut dire que nous nous redonnons des capacités à investir davantage dans ce qui va être important pour demain, l'éducation, la formation, les infrastructures énergétiques, le numérique, qui est un grand projet pour l'Europe. Et donc il faut pas, je pense, rentrer dans cette idée, soit on est en train de faire des réformes et donc on renonce à tout projet enchanteur, soit on veut avoir un projet enchanteur pour l'avenir, et alors on pense qu'on peut échapper aux réformes. Non, il faut faire les réformes et en même temps il faut investir et préparer l'avenir.
Harlem Désir, Rémi Daudet de Libération, une question pour vous.
Alors oui, c'est intéressant parce que vous voulez répondre aux frondeurs. Ce printemps, ils ont, lors des précédents textes budgétaires, ils ont posé un diagnostic finalement en s'inscrivant dans le cadre de François Hollande, du pacte de responsabilité. Ils ont dit finalement il faut en donner un peu plus aux ménages et un peu moins entreprises, en clair. Est-ce que vous dites que c'est seulement une posture, ou est-ce que c'est un débat de fond qui traverse la gauche et qui est intéressant et qui révèle finalement deux visions aujourd'hui?
Je veux me prononcer que sur le fond. Sur le fond, dans le budget qui est, commence à être débattu à l'Assemblée aujourd'hui, celui dont nous parlions, qui va être transmis à l'Europe, il y a une réduction de 3,2 milliards des prélèvements sur les ménages. Et donc il y a une redistribution de pouvoir d'achat pour les ménages les plus modestes, qui va se faire sous la forme, vous le savez, de la suppression de la première tranche d'impôt sur le revenu et d'un relèvement du plafond d'entrée. Donc ça va concerner une grande partie des ménages de catégorie moyenne. C'est environ 6 millions de ménages qui vont voir leur contribution fiscale allégée. C'est la première fois depuis 5 ans qu'il n'y a pas dans le budget de la France une mesure générale qui accentue la fiscalité. Donc c'est une mesure qui effectivement va dans le sens qui a été souligné par un certain nombre de parlementaires, de quelque chose qui soit un rééquilibrage, un équilibrage en tout cas, des allègements fiscaux, une partie importante pour les entreprises, parce que quand on aide les entreprises en matière fiscale aujourd'hui, c'est-à-dire quand on abaisse avec le CICE, avec la baisse des cotisations sociales, la taxation sur les entreprises, c'est pas un cadeau au patron, c'est une bouffée d'oxygène qui est donnée aux entreprises pour qu'elles puissent investir, innover, exporter.
Et donc, ce que les frondeurs réclament, c'est un rééquilibrage en faveur des
un
ménages.
Un peu plus grand. Un peu plus grand.
Oui, je comprends bien, mais je leur dis qu'on le fait, mais qu'il y a un domaine qui est absolument essentiel, c'est de retrouver, pour notre tissu économique, une capacité à être compétitif et à innover, parce que c'est là que se joue l'emploi pour demain. L'emploi public, il existe, et je l'ai dit, dans le domaine de l'éducation, comme d'ailleurs dans le domaine de la sécurité, par exemple, pour les policiers, les gendarmes, nous remettons des postes de fonctionnaires, mais en même temps, globalement, la plupart des Français, ils travaillent dans le privé. Et c'est si l'économie d'entreprise fonctionne que l'on réussira à faire baisser le chômage. Et pour cela, il faut qu'on rattrape un certain nombre de retards. Nos grandes entreprises marchent bien parce qu'elles sont très mondialisées. Et c'est très bien, hein, parce que moi, je passe mon temps en Europe à voir comment nos très grandes entreprises, celles du CAC 40, sont présentes sur tous les marchés européens. Et ça permet de continuer à financer la recherche, le développement, les centres de décision qui sont en France. Mais l'essentiel de l'emploi, il est dans les petites et moyennes entreprises. Et c'est là qu'il y a aujourd'hui des difficultés.
Est-ce qu'il aurait pas fallu cibler davantage sur ces PME, par exemple, plutôt que de distribuer comme ça du saupoudrage
oui,
à tout
mais,
le monde? Est-ce qu'il aurait pas fallu cibler?
Mais en fait, l'essentiel des mesures que nous prenons en faveur des entreprises, elles vont bénéficier aux petites et moyennes entreprises. Parce que l'essentiel du tissu économique qui va bénéficier de la baisse de 40 milliards des prélèvements fiscaux et sociaux sur les entreprises, ce sont des petites et moyennes entreprises.
Harlem Désir, très rapidement, une petite question sur Nicolas Sarkozy, son retour depuis trois semaines. Retour réussi, selon vous?
Si j'en juge par les commentaires faits par ses propres amis, ce n'est pas le cas, puisque il a plutôt été vécu, ce retour, comme un facteur de division que de rassemblement dans son camp.
Ça vous rassure, finalement?
Mais c'est pas à moi qui revient de choisir qui sera demain
leader de l'opposition. Vous avez un adversaire préféré?
Non, je n'en ai pas, parce qu'on prend celui
dont
ils se doteront. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que à partir du moment où il y a à la fois Nicolas Sarkozy et d'autres personnalités, comme Alain Juppé, qui deviennent les porte-parole de l'opposition, il y a un débat qui peut s'organiser, projet contre projet. Et nous avons parlé là de la politique budgétaire, de notre politique sociale, de notre politique éducative, économique, eh bien, on va pouvoir débattre de ce que propose aujourd'hui l'UMP, c'est-à-dire non pas 21 milliards de réduction du déficit ou 50 milliards comme nous le proposons d'ici à 2017, mais eux, ils proposent 100 ou 150 milliards de réduction. Alors là, ça veut dire qu'effectivement, on n'embauche plus de profs, on supprime des postes d'infirmières, on renonce aux services publics, on renonce à l'assurance chômage, on renonce à l'assurance maladie. Donc, ayons ce débat. Comment est-ce que effectivement on prépare l'avenir pour la France? Est-ce que c'est en démolissant le modèle social et républicain, ou est-ce que c'est en le réformant? Parce qu'effectivement, il faut le réformer, mais pour lui redonner de la vigueur.
Donc grâce à Nicolas Sarkozy, si on vous comprend bien, enfin, on peut redébattre en France. Juste, il nous reste 2 minutes, Harlem Désir. Je voudrais vous faire écouter un document d'archives.
Vous êtes là, vous êtes venus, parce que vous le savez, ce mouvement n'appartient à personne, parce qu'il n'appartient qu'à vous. À vous qui portez le badge, à vous que vous soyez beurre de Bordeaux, juif de Toulouse, antillais de Brest, à vous, français de toute culture, immigrés de la première à la 10e génération.
Bon, voilà, Harlem Désir, c'était vous, il y a 30 ans, c'était le concert des potes Place de la Concorde en 1985, il y avait 300 000 personnes, la petite main jaune, le badge touche pas à mon pote, SOS racisme, vous étiez l'un des visages de la génération Mitterrand, c'est exactement demain le 30e anniversaire de la création de SOS, c'était l'époque où finalement la gauche avait encore une influence sur la société.
C'était surtout un combat nécessaire. Juste, et il l'est toujours.
Vous avez de la nostalgie quand vous vous rentendez?
Non, je n'ai pas de nostalgie, mais je ne regrette pas d'avoir été un des acteurs de ce combat pour dire que, quelle que soit son origine, quand on est né en France, qu'on a grandi en France, on fait partie de l'avenir de la France.
Est-ce que la France, elle est plus raciste aujourd'hui qu'il y a 30 ans?
Je ne crois pas. Je pense que il y a toujours du racisme dans nos sociétés. Il existe. Mais je crois qu'on a avancé. Je crois qu'aujourd'hui, personne n'oserait vraiment remettre en cause le fait que, justement, un enfant qui est né ici, quelle que soit son origine, que ses parents soient d'Algérie ou d'Auvergne, est un enfant français. À l'époque, on en était encore à devoir répondre à cette question-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours de la ghettoisation sociale, qu'il faut lutter pour l'égalité dans tous les domaines. Et ce combat, il doit continuer à être mené.
Merci, Harlem Désir. On doit s'arrêter là. C'est la fin de Mardi Politique, réalisé par Mathias Golchani, Audrey Yatoni à la programmation. Merci aussi à Roselyne Fèvre de France 24 et Rémi Daudet de Libération. Merci à tous. Très bonne soirée à tous. We'll be right back.